Chapitre 40. La vérité se fait jour enfin. Deux jours après le mariage, le mercredi 9 septembre, un paquet de lettres reçu à Windygates fut envoyé par l'intendant de Lady Lundy à l'Ermitage. À l'exception d'une seule, ces lettres étaient toutes adressées soit à Sir Patrick, soit à sa belle-sœur. Une seule l'était à Arnold Brinkworth, Esquire, aux soins de Lady Lundy, Windygates, comté de Perth. L'enveloppe était protégée par un sceau. Après avoir remarqué que cette lettre portait le timbre de la poste de Glasgow, Sir Patrick regarda avec une certaine défiance l'écriture de l'adresse. Elle ne lui était pas connue, mais c'était évidemment l'écriture d'une femme. Lady Lundy était assise en face de lui, de l'autre côté de la table. Il dit d'un air indifférent « Une lettre pour Arnold ». Et il la lui passa. Sa seigneurie prit la lettre et la laissait tomber dès qu'elle eut vu l'écriture, comme si ce papier lui eût brûlé les doigts. « La personne ? Encore ?» s'écria Lady Lundy. « La personne a l'audace d'adresser une lettre à Arnold chez moi !»« Miss Sylvestre ?» demanda Sir Patrick. « Non, non !» dit sa seigneurie en serrant bruyamment les dents. « La personne peut m'insulter en adressant une lettre confiée à mes soins, mais son nom ne sortira pas de mes lèvres, pas même dans votre maison, Sir Patrick, pas même pour vous plaire. » Sir Patrick était suffisamment édifié. Après tout ce qui était arrivé, après sa lettre d'adieu à Blanche, voici que Miss Sylvestre écrivait à Arnold de son propre mouvement. C'était inexplicable. L'intendant de Lady Lundy était un homme méthodique. Il avait mis sur le dos de toutes les lettres la date à laquelle chacune lui avait été délivrée. Celle adressée à Arnold lui avait été apportée le lundi 7 septembre, le jour même du mariage. Qu'est-ce que cela voulait dire? C'était du temps perdu que de le chercher. Sir Patrick se leva pour enfermer la lettre dans un des tiroirs du bureau placé derrière lui. Lady Lundy intervint dans l'intérêt de la morale. « Sir Patrick !»« Madame ?»« Ne considérez-vous pas comme un devoir pour vous d'ouvrir cette lettre ?»« Chère dame, comment est-il possible que vous ayez une telle pensée ?» La plus vertueuse des femmes de ce monde avait sa réponse toute prête. « Je pense, dit Lady Lundy, aux intérêts moraux d'Arnold. » Sir Patrick sourit. Sur la longue liste des respectables déguisements, grâce auxquels nous affirmons notre importance et nous satisfaisons notre penchant à nous mêler des affaires du voisin, le souci des intérêts moraux d'autrui figure au premier rang. Nous recevrons probablement des nouvelles d'Arnold dans un jour ou deux, dit Sir Patrick en enfermant le pli dans le tiroir. Nous lui enverrons cette lettre dès que nous saurons où la lui faire parvenir. Le lendemain apporta des nouvelles des jeunes époux. Ils annonçaient qu'ils étaient trop heureux. Ils n'avaient guère souci du lieu où ils vivaient, pourvu qu'ils fussent ensemble. Aussi ne s'occupaient-ils de rien. Leur serviteur décidait de tout. Cet homme intelligent, qui méritait toute confiance, avait décrété que Paris n'était pas un lieu de séjour pour tout être humain doux et de raison pendant le mois de septembre. Il avait donc arrangé qu'on quitterait Paris pour Bade le 10. Les lettres devaient être adressées dans cette ville jusqu'à nouvel avis. Si le serviteur se plaisait à Bade, il y séjournerait probablement quelque temps. Mais si le serviteur avait du goût pour les montagnes, il visiterait plutôt la Suisse. En attendant, rien n'intéressait Arnold que Blanche, et Blanche n'avait d'autre intérêt qu'Arnold. Sir Patrick adressa la lettre d'Anne Sylvestre à Arnold, poste restante à Bade. Une seconde lettre arrivait le matin, adressée à Arnold par quelque homme d'affaires et portant le timbre du bureau de poste d'Édimbourg, fut envoyée par la même voie et en même temps. Deux jours après, l'Ermitage était déserté par ses hôtes. Lady Lundy était retournée à Windygates, les autres invités chez eux. Sir Patrick, qui avait aussi l'intention de revenir en Écosse, était resté pour une semaine comme un prisonnier solitaire dans sa triste résidence. Une accumulation d'affaires arriérées qu'il était impossible à son intendant de régler seul l'obligeait à demeurer provisoirement dans le comté de Kent. Pour un homme qui n'avait pas le goût de la chasse aux perdrix, l'épreuve était rude. Sir Patrick arrivait cependant à remplir la journée grâce à ses affaires et avec quelques lectures. Dans la soirée, le recteur d'une paroisse voisine venait pour dîner et provoquait son hôte au noble et antique jeu de piquet. Le recteur était un admirable joueur et Sir Patrick, quoique né presbytérien, chérissait du fond du cœur l'Église d'Angleterre. 3 jours se passèrent ainsi. Les affaires arriérées à l'ermitage touchaient à leur fin. Le moment pour Sir Patrick de retourner en Écosse approchait. Les 2 partenaires au jeu de piquet convinrent de se réunir pour une dernière partie le lendemain soir à la demeure du recteur. Mais donnons-nous la consolation de remarquer que nos supérieurs dans l'Église et dans l'État sont à la merci des circonstances, tout comme les plus humbles et les plus pauvres d'entre nous. La dernière partie de piquet entre le baronnet et le ministre ne devait jamais être jouée. Dans l'après-midi du 4e jour, Sir Patrick, revenant de sa promenade en voiture, trouva une lettre d'Arnold qui l'attendait et qui avait été apportée lors de la 2e distribution. À en juger rien que par les apparences, c'était une lettre d'une importance et peut-être aussi d'un intérêt extraordinaire. Arnold était le dernier homme qu'on pût soupçonner d'aimer à écrire longuement. Néanmoins, cette lettre avait 3 fois le volume et le poids des lettres ordinaires. Et certes, elle contenait quelque chose de rare, d'étrange nouvelle. En haut de l'enveloppe était écrit le mot « pressé » et sur l'un des coins, le mot inquiétant « particulière » était souligné 2 fois. « Rien de fâcheux, j'espère », pensa Sir Patrick. Il brisa l'enveloppe. 2 lettres qui y étaient incluses tombèrent sur la table, c'étaient les 2 mêmes qu'il avait réexpédiées à Bade. La 3e, qui lui était restée en main, couvrait 2 feuilles de papier. Elle était d'Arnold lui-même. Sir Patrick lut celle-ci d'abord. Elle était datée de Bade et commençait ainsi. « Mon cher Sir Patrick, ne prenez pas l'alarme si cela est possible. Je suis dans un terrible embarras. » Sir Patrick détacha un moment les yeux du papier. Étant donné un jeune homme qui écrit de Bade et se déclare dans un terrible embarras, que doit-on penser? Quelle interprétation est naturelle? Sir Patrick tira l'inévitable conclusion, Arnold a joué. Il secoua la tête et continua. Je dois dire, quelque affreux que cela soit, que je ne suis pas à blâmer, ni elle non plus, la pauvre créature. Sir Patrick s'arrêta de nouveau. Elle, Blanche a donc joué aussi. Il ne manque plus pour compléter le tableau que d'apprendre par la phrase suivante que le serviteur entraîné à son tour a perdu jusqu'à ses chausses. Sir Patrick reprit la lecture. « Vous ne pouvez, c'est certain, croire que je connaissais la loi quand j'ai secouru la pauvre Miss Sylvestre. »« Miss Sylvestre, qu'est-ce que Miss Sylvestre fait là-dedans et que peut signifier cette allusion à la loi ?» se dit le baronnet. Sir Patrick avait lu la lettre debout. Une vague appréhension le saisit à l'apparition de ce nom de Miss Sylvestre. Il n'éprouva rien pourtant qui ressemblât à une claire prévision de ce qui allait suivre. Mais une influence indéfinissable agissait sur lui qui ébranlait ses nerfs et qui lui fit sentir tout à coup les infirmités de son âge. Il fut obligé d'attendre un moment avant de reprendre sa lecture. La lettre continuait ainsi. Et quant à la pauvre Anne Sylvestre, quoi qu'elle éprouvât, comme elle me le rappelle, quelques mauvais pressentiments, jamais pourtant elle n'a pu prévoir, n'étant pas légiste, comment tout cela pouvait finir. Je ne sais quelles expressions employer pour vous apprendre une chose à laquelle je ne puis et ne veux pas croire moi-même. Mais fût-elle vraie, je suis certain que vous trouverez le moyen de nous tirer de peine. Rien ne m'arrêtera et rien n'arrêtera Miss Sylvestre, ainsi que vous pouvez en juger par sa lettre. Comme de raison, je n'ai pas dit mot de cette fatale histoire à ma bien-aimée Blanche, qui est parfaitement heureuse et ne se doute de rien. Tout cela, cher Sir Patrick, est très mal écrit, je le crains, mais je voulais vous préparer et vous faire voir d'abord le moins affreux côté des choses. Néanmoins, il faut dire la vérité. Que la honte retombe sur la loi écossaise. Voilà ce que c'est. Geoffrey de Lemaine est un plus grand misérable que vous ne l'avez pensé, et je regrette amèrement, après la manière dont les choses ont tourné, d'avoir retenu ma langue le soir où nous avons eu un entretien particulier à l'Ermitage. Bon, vous allez croire que je mêle toutes choses ensemble. Il n'en est rien. Veuillez garder dans votre esprit ce que je viens de vous dire sur Geoffrey et rapprochez-le de ce qui me reste à vous apprendre. Oh, le plus terrible est encore à venir. La lettre si incluse de Miss Sylvestre me révèle des choses. Vous devez savoir que je me rendis auprès d'elle, en secret, comme messager de Geoffrey, le jour de la fête dans les jardins de Windygates. Eh bien, comment cela a-t-il pu arriver, Dieu seul le sait. Mais il y a sujet de craindre que je ne l'ai épousée, sans le savoir, en août dernier, à l'auberge de Craig Fernie. La lettre tomba des mains de Sir Patrick. Il se renversa sur son siège, étourdi par le choc qu'il venait de recevoir. Il revint à lui et, encore tout accablé, se remit pourtant sur ses pieds et fit un tour dans la chambre. Il s'arrêta, rappela sa volonté, se calma par un violent effort. Il ramassa la lettre, il en relut la dernière phrase. Son front rougit et il était sur le point de céder à une explosion de colère contre Arnold quand la raison l'arrêta. « C'est assez d'un fou dans la famille, dit-il. Mon affaire, dans cette effroyable conjoncture, est de garder ma tête et d'agir pour l'intérêt de Blanche. » Il attendit encore un peu pour être sûr d'être bien maître de lui et revint à la lettre, curieux de voir ce que celui qui l'avait écrite pouvait dire en sa faveur et quelle excuse ou quelle explication Arnold lui donnait. Arnold, qui avait eu tant de choses à dire, n'avait pas su comment les exprimer. Il était difficile de décider ce qu'il y avait de plus remarquable dans sa lettre, ou du désordre de ses idées, ou de l'ingénuité de ses aveux. La lettre n'avait ni commencement, ni milieu, ni fin. Il disait la façon dont il avait été mêlé aux ennuis d'Anne Sylvestre depuis le jour mémorable où Geoffrey de Lemaine l'avait envoyé à Craig Fernie, jusqu'à la non moins mémorable soirée où Sir Patrick avait vainement essayé de le faire parler à l'Ermitage. « J'avoue que je me suis conduit comme un sot, » concluait la lettre, « en gardant le secret de Geoffrey de Lemaine, d'après la manière dont les choses ont tourné. Mais pouvais-je dire ce que je savais sur lui sans compromettre Miss Sylvestre ? Lisez sa lettre, vous verrez ce qu'elle dit et avec quelle générosité elle me donne toute liberté. Il est inutile de vous exprimer combien je suis chagrin d'avoir été si peu prudent. Le mal est fait. » Rien ne m'arrêtera, comme je l'ai dit plus haut, pour le réparer. Dites-moi seulement ce que je dois faire, et tant que cela ne me séparera pas de Blanche, soyez certain que je le ferai. En attendant de vos nouvelles, cher Sir Patrick, je reste votre bien embarrassé, Arnold Brinkworth. Sir Patrick replia la lettre et regarda les deux missives qui l'accompagnaient et qui étaient restées sur la table. Ses yeux étaient durs, ses sourcils froncés, quand il avança la main pour prendre la lettre d'Anne. La lettre de l'agent d'Arnold était la plus proche et il arriva que ce fut celle-là qu'il prit la première. Elle était assez courte et assez lisiblement écrite pour être parcourue d'un regard. L'homme de loi annonçait qu'il avait fait les recherches nécessaires à Glasgow. Anne avait été suivie jusqu'à l'hôtel de la Tête de Mouton. Elle y avait séjourné, malade et dans un état désespéré, jusqu'au commencement de septembre. On avait inséré à son sujet, sans résultat, un avis dans les journaux de Glasgow. Le 5 septembre, elle était suffisamment rétablie pour quitter l'hôtel. On l'avait vue le même jour à la station du chemin de fer, mais à partir de ce moment, sa trace avait encore été perdue. L'homme de loi avait discontinué ses démarches. Il attendait de nouvelles instructions de son client. Cette lettre ne resta pas sans effet, car elle disposa Sir Patrick à suspendre tout jugement sévère et précipité sur le compte d'Anne, ce que tout homme placé dans sa situation eût été porté à faire. La maladie de la jeune femme réclamait une petite part de sympathie. Son abandon, si clairement et si tristement révélé par l'avis inséré dans les journaux, plaidait l'indulgence pour les fautes commises. Gravement, mais sans colère, Sir Patrick ouvrit la lettre d'Anne, cette lettre qui jetait un doute sur la validité du mariage de sa nièce.